pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Vous l'ignorez sans doute, mais je suis une très grande admiratrice de la philosophe et professeure des universités, Blandine Krigel. Je l'ai donc jointe pour qu'elle nous parle de son livre « Spinoza, l'autre voie » qui vient de paraître aux éditions du CERF. Bonjour Blandine Krigel et merci d'avoir accepté cette petite interview.
Bonjour à vous.
Racontez-nous quelle est cette autre voie, cette autre compréhension de la modernité que propose selon vous Spinoza ?
Eh bien, vous le savez, la philosophie moderne a été reconstruite à la Renaissance après un doute sceptique porté sur la philosophie des anciens et en particulier l'idée d'une adéquation de l'esprit humain au monde. Et on doit beaucoup dans cette reconstruction à Descartes. Descartes, en effet, a décalé la philosophie, la contemplation, la connaissance comme contemplation vers l'idée d'un je pense, n'est-ce pas, qui était fondamental, d'une philosophie qu'on a appelée ensuite la philosophie du sujet, la philosophie réflexive. Et c'est une reconstruction magistrale, mais avec un coût élevé. Pour ce faire, Descartes a sorti l'homme de la nature pour lui promettre d'en devenir le maître et le possesseur. Il a établi une partition, une hiérarchie entre l'âme et le corps, non seulement dans l'univers, mais également dans l'homme, qui a évidemment séparé l'homme des animaux, en particulier les animaux n'ayant qu'un corps sont considérés comme des animaux-machines. Et il a fait cette partition entre la volonté et l'entendement. Et du coup, eh bien, il a acheminé ses petits-neveux, comme il disait, ses successeurs, pas immédiatement, mais plus tard, avec les post-kantiens, a une idée en vérité démiurgique de l'humain. Vous voyez, l'homme se prend pour Dieu, il file vers le surhomme, il pense qu'il est par-delà le bien et le mal, qu'il peut inventer les valeurs, bref, à toutes les catastrophes, n'est-ce pas, que le 19e et le 20e siècle a connues sur le plan intellectuel et qui ont d'ailleurs de l'intérieur déclenché ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la crise de la modernité. Alors, par rapport à ça, évidemment, parce que au fond, cette voie de la philosophie réflexive est l'avenue principale de la philosophie moderne, évidemment, la philosophie de Spinoza, longtemps reléguée, considérée comme marginale, Heidegger disait même de lui qu'il était un médiéval, eh bien, est toute différente. Pourquoi ? Parce que d'abord, Spinoza ne sort pas l'homme de la nature, il le laisse en Dieu, il considère qu'il est un homme fini de la substance. Ensuite, il n'accepte pas de séparation entre l'âme et le corps et surtout de hiérarchie. Il estime que partout il y a de l'âme et du corps, du code et de la matière, comme nous disons, que par exemple chez le cheval, chez l'insecte, quoique différemment de chez nous, il y a aussi, n'est-ce pas, de l'âme et du corps. Et enfin, eh bien, il refuse absolument l'idée d'une liberté métaphysique qui nous conduirait à nous considérer un peu comme des dieux et la démiurgie pour ouvrir le chemin d'une libération par la connaissance de nos déterminations et une réconciliation, disons, de la foi et du savoir, de la morale et de la connaissance. Et surtout, au fond, cette libération, il l'inscrit dans une philosophie politique qui était assez marginale dans la philosophie moderne réflexive, qui est une philosophie de la République démocratique.
Oui, alors justement, quand vous évoquez le traité politique, vous dites qu'il marque à la fois l'aboutissement et le tournant de la philosophie politique moderne. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Eh bien, en vérité, l'âge classique est l'âge de la sécularisation. Et évidemment, tous ces penseurs politiques, comme Spinoza, comme Hobbes, comme Locke, se posait le même problème, c'est-à-dire nous sortons d'une société religieuse, qu'est-ce qu'on garde ? Eh bien, on garde un certain nombre de valeurs qu'on ne trouvait pas, par exemple, dans la philosophie païenne. D'abord, ils construisent quelque chose qui n'existait pas dans la philosophie politique des anciens, même la philosophie républicaine d'Aristote, par exemple, c'est-à-dire les droits de l'homme. Ça commence avec les docteurs néotomistes de l'école de Salamanque. Et une conception de la politique fondée sur le consentement, la loi, le pacte, l'idée de pacte. Et enfin, c'est peut-être le plus important, évidemment, une conception, au fond, d'un pacte d'association, d'un pacte démocratique. Et on doit, à Spinoza proprement dit, on doit l'idée que dans ce courant républicain qui se développe à l'âge classique, eh bien, il est le premier penseur de la démocratie, disant que finalement, la démocratie démocratie, c'est le gouvernement le plus adéquat à la République. Il est aussi le penseur de la liberté de conscience, c'est-à-dire de l'acceptation tolérante des différentes fois dans la société, et également, évidemment, le penseur de la liberté et surtout d'une politique qui est fondée non pas sur le rapport de force, mais sur le respect des règles communes, des lois. Et c'est pour ça qu'il met la phrase fameuse « aime ton prochain comme toi-même » comme une valeur fondamentale de fondation de la politique.
Aime ton prochain comme toi-même, voilà qui constitue une autre voie et un vaste programme. Courez lire Spinoza, l'autre voie, de Blandine Krigel, qui vient de paraître aux éditions du Cerf.
C'est noté, merci à vous Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.